6h45, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui, la Corée du Nord, le jeu diplomatique à deux bandes.
Oui, à deux, à trois, peut-être même à quatre, puisque c'est confirmé depuis hier. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, ira prochainement en Russie, probablement demain ou jeudi. Première rencontre entre un dirigeant nord-coréen et russe depuis 8 ans, à un moment justement où les relations avec les États-Unis se sont de nouveau tendues. Les négociations pour parvenir à une solution négociée patinent. Pyongyang veut donc diversifier ses relations et peut-être renverser la table. On voit ça avec vous, Dorian Malovitch. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes directeur Asie du journal La Croix, co-auteur avec Juliette Morillo du Monde, selon Kim Jong-un. Kim Jong-un, donc, qui pourrait rencontrer Vladimir Poutine, dit-on, à Vladivostok. Ce serait même pas 2 mois, donc, après le sommet de Hanoï avec Donald Trump, qui avait été un échec. Deuxième rencontre avec le président américain. On pourrait peut-être commencer par ce contexte. Au bout de 2 rencontres avec Donald Trump, est-ce que finalement la situation et les négociations se sont gelées?
Je dirais que depuis Singapour en juin l'année dernière et Hanoï qui a été un échec en février, nous sommes dans une situation qui est un peu en suspens. C'est-à-dire que à Hanoï, il n'a pas été possible de trouver un compromis fondé sur la volonté de Trump d'obtenir un accord global, un total. C'est-à-dire Trump veut la dénucléarisation totale, définitive, prolongée de la Corée du Nord. Et le Nord-Coréen, lui, à l'inverse, veut la levée des sanctions. Mais l'un et l'autre n'ont pas fait de concessions suffisantes pour pouvoir arriver à un accord qui soit progressif. C'est-à-dire, il n'est pas possible pour Kim Jong-un de dénucléariser massivement, immédiatement contre la levée des sanctions. Donc on est en suspens. Et on attend dans les mois qui viennent, ce qui seront déterminants pour savoir d'un côté comme de l'autre, maintenant que tout le monde connaît, je dirais, les objectifs extrêmes et totaux de chaque parti, si l'un et l'autre sera prêt à faire une concession pour obtenir un accord qui se déroulera après étape par étape.
Alors il y a la question des objectifs et puis il y a la question des hommes aussi, puisque à la fin de la semaine dernière, jeudi et vendredi, c'est John Bolton et Mike Pompeo, si je puis dire, qui en ont pris pour leur grade de la part de Pyongyang. Pyongyang qui parle de remarques stupides de John Bolton, qui demandait à la Corée du Nord de donner des indications réelles de sa dénucléarisation, et puis qui disait que Pompeo utilisait des méthodes de gangsters. Elle s'en était plainte assez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, l'échec de Hanoï, en fait, bon, le camp nord-coréen n'a pas vraiment supporté cet échec. Enfin, ils ont mal vécu cet échec. Ils ont considéré qu'il aurait été possible d'avoir un accord au moins un minima, c'est-à-dire on aurait pu avoir une déclaration de paix, l'ouverture du bureau de liaison à Washington et Pyongyang, et ça aurait gardé, ça aurait préservé la dynamique, si vous voulez, de la négociation pour un troisième sommet. Donc là, comme l'échec a été total quasiment à Hanoï, maintenant Pyongyang exprime son mécontentement en envoyant des messages assez, je dirais, virulents verbalement, ou bien en montrant que ils peuvent aussi faire des essais ils ont fait un essai il y a 10 jours d'une nouvelle arme tactique, par exemple. Mais Kim Jong-un prend bien soin de ne pas dépasser la ligne rouge. Il exprime son mécontentement. Ce sont des messages très clairs en direction de Washington pour dire bon, écoutez, maintenant, je vous donne jusqu'à la fin de l'année pour prendre des décisions, pour trouver un compromis. Au-delà de cette ligne de fin d'année, ça ne pourra pas fonctionner. Mais il prend bien soin, surtout, de ne pas attaquer directement Trump. On voit bien que des deux côtés, Trump et Kim préservent leurs relations par des déclarations. Nous sommes des amis, nous nous entendons très bien, nous allons nous revoir. Donc là, c'est un peu un jeu de la part de la Corée du Nord, qui sait mettre la pression, envoyer des messages pour dire nous on ne se laissera pas faire, oui, et nous voulons arriver à quelque chose qui soit honnête et raisonnable.
Oui, sachant que c'est Trump, je crois, qui avait fixé cette échéance de la fin de l'année. Donc, on voit que Pyongyang cherche des moyens de pression aussi bien avec ce jeu sur une absence ou présence de ce bureau de liaison de Kaesong qui a ouvert en septembre dernier. Sur cet essai qui a eu lieu jeudi dernier également, donc le tir d'une nouvelle arme, dit KCNA, tactique guidée, un peu comme ce qui s'était passé en novembre dernier, où il s'agissait là d'une arme stratégique de pointe, hein, je cite encore. Est-ce que justement, on fait tous ces essais côté Pyongyang pour ne pas dire arme stratégique, justement, on dit arme tactique.
Oui, alors absolument, faire bien la différence, c'est-à-dire que d'une part, la semaine dernière, ça a été annoncé, on a dit que Kim Jong-un était présent, mais il n'y a pas une seule image de cet essai d'armes tactiques, hein, parce que est-ce que c'est du bluff, est-ce que c'est une façon effectivement de base, c'est une menace de basse intensité, si j'ose dire, mais il n'ira pas jusqu'à faire un nouvel essai nucléaire ou un lancement de missiles, ce qui aux yeux de Washington serait rédhibitoire et couperait totalement la relation et on repartirait totalement à zéro, peut-être dans une phase de tension comme on l'a connue en 2017. Mais oui, ça, pour le moment, c'est bien, bien prudent de la part des Nord-Coréens de ne pas aller jusque-là.
Oui, c'est ça, avec toujours certaines observations d'observateurs indépendants concernant le nucléaire, la menace balistique, toujours qui sont revenus récemment. Qu'est-ce que ça veut dire de ce point de vue-là et du point de vue des négociations, l'arrivée de ou l'immixtion plutôt de la Russie dans le jeu? Donc, beaucoup d'observateurs soulignent qu'il y a une vieille amitié. Est-ce que ça annonce un futur partenariat, disons-le comme ça?
Alors, écoutez, on rappelle en deux mots, hein, quand même, l'Union soviétique en 48 met le leader Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, au pouvoir à Pyongyang et soutient la Corée du Nord, je dirais jusqu'en 91 et la fin de l'URSS. Et à partir de là, l'alliance va se tourner vers la Chine de la part de Pyongyang. Et depuis lors, les relations avec Moscou étaient très distantes. Et en fait, Poutine voulait rentrer dans le jeu des négociations nucléaires nord-coréennes depuis déjà quelques années, mais c'est Pyongyang, c'est Kim Jong-un qui, lui, a décidé aujourd'hui, parce que ça lui était favorable, de montrer à Washington, d'envoyer un nouveau message à Washington, qu'il pouvait, là encore, après la Chine, trouver un nouveau partenaire et intégrer Poutine dans le processus. Ce sera demain ou après-demain, comme vous l'avez dit, à Vladivostok, à l'université d'Extrême-Orient, à la frontière. Je vous rappelle, il y a 20 kilomètres de frontière entre la Corée du Nord et la Russie. Et c'est là où, effectivement, il y aura probablement un sommet avec Poutine. Et des discussions économiques se tiendront en dépit des sanctions. Et on rappelle aussi qu'il y a plus de 40 000 ouvriers nord-coréens qui travaillent en Russie et qui rapportent aussi beaucoup, beaucoup d'argent au régime de Pyongyang. Donc, c'est un nouveau message. On peut diversifier. Les sanctions sont contournées déjà depuis des années par la Corée du Nord de façon habile, alors avec la Chine, qui envoie du pétrole par des transbordements de marchandises sur des bateaux, sur les eaux internationales.
Oui, les États-Unis l'ont reproché souvent. Oui.
Voilà. Mais enfin, personne n'est dupe, en fait, dans cette réalité. C'est-à-dire que on voit bien que la pression maximum que je continue à imposer, alors là, on a du Pompeo et on a du Bolton et Trump qui reprend le message, on ne cédera rien. On voit bien que dans la réalité, bon, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de fuites hein, dans ce système de sanctions, et ça ne pourra pas marcher éternellement.
Et alors, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la Russie n'arrive effectivement pas complètement vierge dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il pourrait advenir du rapprochement? Est-ce que Pyongyang va en profiter pour rechercher un soutien diplomatique, hein, disons, pour obtenir un allègement des sanctions, ce qui semble peut-être un peu improbable, ou un trio avec la Chine pour appuyer d'une certaine manière en fourniture Pyongyang?
Alors, avec la Russie, de toute façon, la Russie a toujours été un peu sur la même ligne que Pékin sur la levée des sanctions. Même s'ils les ont votées en 2016, la Russie dit que ça n'est pas la meilleure façon de faire évoluer les choses. Donc, il y aura probablement des projets. Alors, on parle de projets touristiques, ça n'est pas vraiment officiellement dans les sanctions, donc ça peut fonctionner, mais je pense que le symbole, il est au-delà. Il n'y a pas, il n'y aura pas de contrat économique parce que les sanctions sont là. Mais c'est pour montrer que, effectivement, la Russie, qui a été un acteur de la guerre de Corée, quand même, et après, dans les années qui ont suivi, pourrait aussi jouer un rôle et fera pression au Conseil de sécurité de l'ONU avec la Chine pour lever des sanctions, oui. En partie.
Oui, oui. Bon, bah, écoutez, ce sera à suivre avec, oui. Fin de semaine, en plus, la cérémonie menée par la Corée du Sud d'anniversaire.
Le premier sommet.
Voilà, c'est ça. L'anniversaire du premier sommet où probablement Moon Jae-in ira seul, mais ce sera à vérifier et à voir. En tout cas, merci pour vos explications ce matin, Dorian Malovitch, directeur Asie de la Croix et co-auteur avec Juliette Morillo du Monde selon Kim Jong-un. Merci, bonne journée.